Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis en fait de vous accueillir pour ce deuxième séminaire webinaire en fait de Medici en partenariat avec la DBU, qui est l'association des directeurs et personnels de direction des bibliothèques universitaires et de la documentation. Donc sous forme d'une table ronde sur les ouvrages en libre accès et en accès ouvert, ça sera une table ronde sur des retours d'expérience, de collaboration entre bibliothèques universitaires, chercheurs et presse académique, qui sera donc animée par Cécile Zviatek, secrétaire générale de la DBU et directrice du SCD de l'Université Paris-Nanterre. Et tout de suite, je vais passer la parole à Marc Martinez, qui est président de la DBU, pour vous dire quelques mots. Merci à tous et à toutes et bon webinaire.
Bonjour à toutes et tous. Vous m'entendez, j'espère. Vous me voyez également, sans doute. Le verre de ma caméra est allumé. Oui, effectivement. Donc, je préside la DBU. Je suis également directeur des bibliothèques universitaires Jean Moulin Lyon 3. Et donc, c'est à ce double titre que je me réjouis de voir aujourd'hui ce partenariat donner lieu à ce webinaire et à des retours d'expérience, puisque à Lyon 3, comme au sein de la DBU, après des années passées dans nos métiers respectifs à se regarder avec circonspection, en chien de faïence, parfois avec des relations difficiles, on a depuis quelques années dépassé les logiques de métiers ensilés, en quelque sorte, pour aborder notamment au travers de la question de l'accès ouvert, de l'open access et de la science ouverte, les ouvrages et les revues ouvertes, les portails, à travailler ensemble ces questions, et ce qui donne lieu à des réalisations alors qu'on retrouve à Saclay, qui émergent à Lille, à Bordeaux, à Lyon, de partenariats extrêmement intéressants. Et que l'ADBU soutiendra en lien avec le réseau Médici tant et plus. Donc voilà, je n'en dirai pas plus parce que le webinaire est prévu pour 1 heure et la partie intéressante, c'est la table ronde et les conférenciers. Mais en tout cas, je souhaite à toutes et tous un très bon webinaire et je peux en tout cas vous assurer que l'ADBU continuera à accompagner et soutenir ce type d'initiative. Merci.
Merci Marc. Donc aujourd'hui, en effet, nous sommes rassemblés pour un webinaire qui va croiser des regards et des métiers autour d'un objet, le livre, d'un format, le livre électronique ou le livre web, mais aussi poser des questions de modèle économique et juridique. Les enjeux, nous allons les aborder à travers trois interventions. La première, et je vais lui passer la parole sans plus tarder, c'est Madame Delphine Lerculeur à Sciences Po Paris.
Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'accueillir et de me laisser ce temps pour vous parler donc de l'atlas numérique que nous avons lancé à Sciences Po. Donc, je vais partager tout de suite mon écran et mes slides. En plein écran. Voilà. Donc, ce projet, à l'origine, en fait, il est né d'une réflexion qui a été menée à Sciences Po, qui consistait en fait à réfléchir à comment faire évoluer un atlas imprimé qui existait depuis plusieurs années à Sciences Po, publié par les presses donc de Sciences Po et qui avait été traduit dans plusieurs langues, qui est l'atlas de la mondialisation. Et il y avait une vraie volonté des auteurs de proposer une nouvelle édition, mais qui cette fois-ci serait entièrement pensée pour être numérique, et dont les contenus seraient plus largement accessibles et donc toucheraient un public beaucoup plus large. On avait également un cours qui utilisait en fait les contenus de cet atlas papier, qui est le cours Espace mondial, qui est un des enseignements fondamentaux donnés aux étudiants de premières années à Sciences Po, qui est donc le cours Espace mondial et qui a été décliné dès 2014 sous la forme d'un MOOC et diffusé en français et en anglais. Donc, l'objectif en fait de ce projet de nouvelle édition de cet atlas, c'était à la fois d'expérimenter une nouvelle politique éditoriale en ayant une publication numérique qui serait en libre accès, mais également un ouvrage papier qui lui serait payant, mais qui constituerait en fait un produit dérivé. Donc la version de référence serait la version numérique. Et de l'autre côté, on voulait également expérimenter un outil pédagogique qui parlerait des enjeux de la mondialisation à destination non seulement des élèves du cours Espace Mondial, des élèves donc en présentiel, des élèves du MOOC, mais aussi des enseignants et des élèves du secondaire, sachant que les précédentes éditions de l'Atlas sont relativement utilisées au niveau du lycée. Donc, dans ce projet, on a réuni une équipe pluridisciplinaire avec à la fois donc, la bibliothèque qui a participé et piloté le projet, donc moi-même, puisque j'étais le chef de projet. Évidemment, un éditeur avec les presses de Sciences Po. Et là, je remercie Julie Gazier d'avoir accepté de tenter cette expérience avec nous. Des cartographes, membres de l'atelier de cartographie de Sciences Po et qui avaient évidemment travaillé sur toutes les éditions précédentes. Également, une équipe d'auteurs, donc tous enseignants-chercheurs, pas forcément affiliés à Sciences Po, mais qui avaient travaillé sur le cours Espace Mondial et qui sont tous des spécialistes des relations internationales. Et enfin, des prestataires pour la partie développement et traduction. Donc, au final, on obtient trois produits. Hein. On a la partie visible, je dirais, de l'iceberg qui est le site en lui-même auquel tout le monde a accès, qui est un site entièrement traduit en anglais, dont tous les contenus sont en accès ouvert et qui est entièrement accessible. Donc là, on parle d'accessibilité numérique. Pour nous, c'était vraiment un des grands enjeux aussi dans ce projet, qui est divisé donc en chapitres dans lesquels on va retrouver des articles, des focus, donc les focus ce sont des courts articles, un lexique, ainsi que des cartes et diagrammes. Je vais vous montrer très rapidement à quoi ça ressemble. Voilà, donc ça c'est le site, donc la page d'accueil. Donc on arrive, on a une vue avec les différentes parties, les différents articles, donc c'est une des formes de navigation qu'on va retrouver. On peut aussi naviguer via un menu. On va retrouver ces grandes parties, accéder par type de contenu également. Et enfin, on a aussi la possibilité d'utiliser un moteur de recherche. Donc, si on va sur un article, celui-ci s'affiche ainsi. Donc, on a une grande illustration pour introduire l'article. Pour nous, c'était très important dans la réflexion, c'était qu'on puisse identifier chaque article à une image. Et ensuite, on va retrouver le résumé, le corps du texte, avec des liens qui renvoient à l'extérieur de l'atlas. Ici, des mots surlignés qui renvoient vers des mots du lexique. Les cartes et les diagrammes, donc avec un lien vers une page dédiée où on va pouvoir télécharger dans différents formats ce document. Et puis, vous voyez sur la droite et la gauche des flèches de navigation. Ici, un focus qui permet donc, en ouvrant une nouvelle page, d'arriver donc sur cet autre format d'article. Et enfin, en bas de l'article, on va retrouver des renvois avec des mots-clés qui permettent encore là aussi une nouvelle autre façon de naviguer dans l'Atlas. La citation, les références, on a volontairement limité le nombre de références pour ne pas perdre notre lecteur. Et enfin, des renvois internes vers l'Atlas pour rebondir sur d'autres contenus. Donc, ça, c'était un des produits. Le deuxième produit dans ce projet qui a été réalisé, c'est la création d'un outil d'édition pour pouvoir suivre le workflow de publication. Donc, cet outil d'édition, il est en open source, son code est disponible sur GitHub et il permet à la fois de gérer l'arborescence donc, du site, donc les différentes parties du site, de gérer les différents profils utilisateurs. On a deux grandes catégories, les visiteurs, qui ne peuvent pas intervenir sur les contenus, mais qui peuvent en tout cas regarder et prévisualiser notamment les articles qui vont être déposés. Et enfin, l'outil à proprement parler qui va permettre de gérer les différents états, les différents statuts de publication de l'article entre le moment où il va être déposé sur la plateforme, le moment où il va être relu, corrigé et enfin mis en ligne. Et enfin, on a le troisième produit qui est l'ouvrage papier qui a été publié en septembre 2018 par les presses, sachant que l'Atlas, lui, dans sa version numérique, est sorti en octobre 2018, donc un mois après. Et le projet, en tout, ça a duré 3 ans. C'était sur la période 2017-2019. Donc, si je fais un bilan assez rapide de cette expérimentation, on peut dire que c'est plutôt réussi. On a au final un produit unique, original, avec les différents objectifs qui ont été atteints, hein, un site entièrement responsive, qui soit accessible et bilingue, qui a trouvé également son public, donc notamment depuis 2020. On est autour des 5 000 consultations, enfin 5 000 visiteurs par mois et 12 000 pages consultées par mois. C'est une moyenne avec des pics en fonction évidemment des moments où le cours est donné aux étudiants. Mais on peut s'interroger si on n'a pas été des fois un peu trop ambitieux. On avait d'autres prétentions, notamment de proposer des contenus multimédia. Donc, ça, évidemment, ça a été abandonné, faute de temps. On voulait proposer notamment des interviews de spécialistes sur certains sujets. Et aussi, finalement, on s'est un peu fait happer par la priorité qui a été donnée à la version imprimée, puisque là, il y avait des délais à tenir en termes de fabrication et notamment d'impression. Et donc, l'Atlas papier est sorti avant l'Atlas numérique. Voilà, et je dirais aujourd'hui, le grand défi pour nous, c'est d'arriver à faire vivre cet atlas, c'est-à-dire de continuer à l'enrichir, de mettre à jour les contenus. Donc, on a échangé avec les équipes pour voir comment dessiner différents scénarios. Donc, à minima, évidemment, mettre à jour les données des cartes et de certains articles. On se pose aussi également une question sur le référencement et notamment avec l'affichage du nom des auteurs pour chaque article, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment une publication collective où ne sont pas affichés les noms des auteurs pour les articles. L'autre scénario qui a été discuté avec les équipes pédagogiques du cours Espace Mondial, c'est de proposer aux étudiants du cours d'enrichir les contenus de l'Atlas. Et enfin, le troisième scénario, c'est de pouvoir proposer cet outil à d'autres fins de publication pour d'autres produits. Donc, on a été approché par des centres de recherche à Sciences Po qui étaient potentiellement intéressés pour des publications en open access et également par l'INALCO. Donc là, pour le moment, voilà, c'est des pistes. Donc, à voir. Si des gens sont intéressés, en tout cas, n'hésitez pas à me contacter ou à aller voir donc la documentation en ligne sur GitHub. Et voilà, je me tiens à votre disposition pour toute question. Merci.
Alors justement, on a une question qu'on peut prendre tout de suite. Je vous invite à les mettre dans l'option questions et réponses au bas de votre écran. Nous aurons 3 présentations pour ceux qui nous rejoignent et ensuite un temps de discussion partagé. Mais on peut prendre une première question qui s'adresse vraiment de manière factuelle à Delphine Le Reculeur. Qu'en est-il de la pérennité du site pour ce webbook et de son adresse ?
Donc, bah, le site, il est hébergé sur donc un serveur de Sciences Po. Donc, au niveau de la pérennité, donc nous, on fait des sauvegardes, des contenus. Voilà, après, sur le long terme, bah, ça reste un site web. Donc, il a vocation à évoluer et donc on verra ce qui peut se passer par la suite. Mais voilà. Et quant à l'adresse web, est-ce que la question peut être précisée ?
Est-ce que c'est une adresse qui est pérenne ou qui va se retrouver ? Est-ce qu'il y a un risque particulier ? Je pense que c'est là la question.
Non, non, non. En tout cas, c'est géré au niveau de notre DSI. Et il y a là-dessus, a priori, pas de souci. c'est sécurisé et pérenne.
D'accord, donc je ne prends pas d'autres questions pour l'instant. Je vois bien qu'il y a une question sur les versions de référence et la question de la satisfaction des ventes. Nous en parlerons, parce que la question est posée plusieurs fois, lors d'un échange par la suite. Merci beaucoup Delphine. Nous allons passer la parole maintenant. Pardon. À Dorothée Pain, qui nous vient de la région parisienne, qui a beaucoup de cordes à son arc et qui va nous présenter un e-manuel ouvert. Vous avez travaillé, je crois, pour Couperin également, Dorothée.
C'est ça. J'ai une double casquette puisque je fais partie de l'établissement porteur du projet et j'étais aussi sur ce manuel de par ma qualité de coordinatrice de la cellule e-book du consortium Couperin. Alors, je vais partager aussi mon écran. Alors, ce manuel, il a longtemps été appelé manuel numérique en histoire ou e-manuel. En fait, on a eu du mal à le nommer. Son vrai nom en librairie, c'est Initiation aux études historiques. On a du mal à le nommer parce que ça n'est pas seulement le PDF d'un manuel papier, mais il est pensé vraiment comme un nouveau média enrichi de façon collaborative par un ensemble d'acteurs de la chaîne des métiers du livre et qui est au service de l'innovation pédagogique. La genèse du projet, en fait, elle se base sur une constatation simple. En 2018, 58% des établissements pointait l'absence de disponibilité de titres de livres numériques désirés dans une enquête menée par la cellule e-book de Couperin. Même pour des offres existantes, celles-ci ne répondaient pas visiblement aux attentes des établissements, en particulier sur les collections destinées à un public de niveau licence. L'édition privée rechigne à mettre à disposition les ouvrages à destination de ce public spécifique sous format électronique. La crainte la plus commune, c'est la cannibalisation des ventes papier par la mise à disposition du format électronique par le secteur académique. On peut aussi noter le manque de visibilité sur le financement des éditeurs ou l'hétérogénéité des prescriptions des manuels par les enseignants de premier cycle. Donc, pour beaucoup de ceux qui sont actuellement distribués sous forme numérique, en général, il s'agit d'anciennes versions, pas toujours, mais souvent. Dans ce contexte, c'est dans ce contexte qu'est né ce projet et nous étions en 2018. Maintenant, on est en 2020 et dans le contexte de pandémie que nous vivons actuellement, l'accès à la connaissance sous format électronique prend encore plus son sens et les manques, du coup, sont encore plus criants. Donc, les bibliothèques dans tout ça, par leur qualité de leurs infrastructures et le carrefour des compétences qu'elles constituent, ont eu non seulement un rôle de moteur dans la mise en place du projet, mais aussi un rôle de facilitateur et de passeur entre les différents acteurs. Donc, on va voir plus spécifiquement les acteurs. Donc, il y a deux comités qui ont été créés dans ce projet, un comité de pilotage et un comité éditorial. Le comité de pilotage est constitué déjà de représentants de l'établissement porteur et coordinateur du projet. Donc, dans l'équipe de l'Université de Versailles-Saint-Quentin, on trouvait à la fois la directrice de la DBIST qui coordonnait ce pilotage et une représentante des services TIS. Ensuite, nous avions représenté le diffuseur. Alors, dans notre cas, ça n'est pas des presses académiques, mais Numérique Premium et l'éditeur C'est Nouveau Monde. Les coordinatrices du manuel qui sont des enseignantes, Couperin, et un chercheur du laboratoire Paragraphe qui s'occupe spécifiquement de l'évaluation du dispositif. Le comité de pilotage a instruit l'ensemble des questions relatives au développement du manuel, a arbitré les propositions du comité éditorial et les différents scénarios proposés par l'éditeur. Il a aussi veillé au côté administratif du projet, qui était quand même lourd, à la bonne exécution budgétaire, ainsi qu'au respect des engagements pris dans le dossier de l'appel à projet. J'y reviendrai après. Le comité éditorial, lui, a eu pour tâche de s'assurer de la rédaction du manuel. Il est composé d'un représentant de l'éditeur Nouveau Monde, des coordinatrices, donc ces personnes-là étaient vraiment l'interface, le trait d'union entre les deux comités, et à cela s'ajoutaient les auteurs. Pour ce manuel, cette collaboration rassemble 27 auteurs. Ces derniers ont été sélectionnés par l'éditeur et les coordinatrices, et un contrat auteur a été établi entre eux et l'éditeur. Le défi était de concevoir un manuel de premier cycle ayant pour objet de présenter un état de l'art en histoire. Donc, nous sommes sur un produit destiné au premier cycle, donc nous ne pouvons pas sous-estimer la prescription des enseignants. une attention toute particulière a donc été portée sur la sélection d'enseignants qui ont l'expérience des années licence. Et il faut souligner que parmi les auteurs qui ont accepté de faire partie de l'aventure figurent des personnalités très renommées, qui sont très accessibles du coup, comme de jeunes chercheurs. Ça signe vraiment l'intérêt du projet pour les enseignants. L'ensemble du projet a coûté 145 000 euros, répartis en deux postes distincts. Donc en bleu, sans surprise, vous pouvez voir que c'est le diffuseur et l'établissement porteur qui ont majoritairement contribué au financement en ressources humaines. Et en vert, ce sont les dépenses de fonctionnement. Nous avons répondu et remporté en 2018 l'appel à manifestation d'intérêt transformation pédagogique et numérique lancé par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, ce qui nous a apporté la majorité du financement requis. Pour le reste, c'est Couperin et l'Université Paris-Saclay, dont l'UVSQ est membre associé, qui ont participé. Et il est à noter qu'il y a eu un mode de financement innovant qui a été lancé par le consortium Couperin sous forme d'un crowdfunding qui a su mobiliser 13 universités, preuve de l'intérêt du projet au niveau académique. Donc là, vous avez la répartition des dépenses. Donc en bleu, tout ce qui concerne l'éditeur avec la coordination, les droits d'auteur, les maquettes, les corrections. Et en rouge, le diffuseur, donc le pilotage qui prend une part importante à ces dépenses. Et puis ensuite, vous voyez tous les détails de tous les enrichissements qui ont été réalisés par la société EasyCrunch. Puis viennent l'hébergement, puisque le manuel est hébergé chez l'éditeur, l'évaluation, la communication et la gestion administrative. Alors, on va essayer d'aller sur le manuel. Donc, du coup, je ne sais pas si... Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Vous êtes toujours sur le PowerPoint?
On est sur le PowerPoint. Je pense que vous partagez l'application.
Alors, je vais changer.
Je vais mettre les liens dans le chat, si vous voulez.
Très bien. Hop. Donc voilà, donc ce manuel existe bien sous deux formes, la forme papier que j'ai dans les mains, vous voyez, et la forme numérique que vous avez à l'écran, de façon complètement homothétique. L'homothétie, ça a été un vrai choix et c'est une vraie force avérée par des études, parce que ça va permettre de sensibiliser les étudiants ou les lycéens à la documentation électronique dès l'entrée à l'université, pour que sans rupture, ils puissent appréhender les entrées en master en connaissant et en maîtrisant déjà les fonctionnalités, les codes liés à ce support. Le manuel est en open access, il est sous licence Creative Commons. Chaque enseignant sera libre d'utiliser tout ou partie du manuel ou des exercices et de l'enrichir. Un carnet hypothèse, donc, qui est ici, a été mis en place pour partager les expériences d'utilisation et on espère à terme fédérer une communauté d'enseignants utilisateurs. Il est accessible à tous, il a été vraiment pensé pour favoriser aussi la transition lycée-université en fournissant à la fois un socle de connaissances et aussi, par ses parcours thématiques et ses parcours d'apprentissage, des exercices d'auto-positionnement qui s'inscrivent clairement dans les attendus de la loi orientation et réussite des étudiants. Alors, la force de ce manuel, c'est son interactivité. Je vais aller sur... On y trouve entre autres donc une trousse interactive qui vous permet de surligner, annoter des exercices, des cartes interactives. Donc là, par exemple... Des cartes interactives, donc des exercices. Une frise chronologique, des liens hypertextes directs vers la documentation. Et ce qui est vraiment une vraie richesse dans ce manuel, c'est que la documentation est contextualisée et les sources sont vérifiées par les auteurs. Il propose aussi un espace, quand on est identifié, de classe collaborative qui favorise les échanges entre les enseignants et les étudiants et permet le suivi à distance. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. De plus, On a pensé dès le départ au handicap et donc nous avons mis en place un système d'accessibilité pour tous les utilisateurs souffrant de dyslexie, déficience visuelle. Vous voyez, je peux le passer en mode nuit, je peux écarter, je peux passer pour les dyslexiques dans une autre police. Je réinitialise. Et on peut accéder au contenu textuel de façon adaptée.
La sémiologie graphique, la carte comme production visuelle et graphique. La sémiologie graphique, voilà. La carte.
Voilà. Donc, on n'a pas encore beaucoup de recul sur ce dispositif qui a été lancé en décembre 2020. Il sera évalué en 2021. Donc, c'est un suivi quantitatif, mais aussi qualitatif des usages qui sera fait par le laboratoire Paragraphe de l'Université Paris 8 pour étudier la perception et l'adoption du dispositif par ses utilisateurs. Et l'expérience, on aimerait clairement la dupliquer en capitalisant les compétences et les structures de ce projet, parce que ce prototype, finalement, fournit une méthodologie pour la production d'autres manuels dans d'autres disciplines. Nous espérons, grâce à cette première étape en histoire, pouvoir capitaliser certains coûts de développement pour la production d'autres ouvrages de ce type. Et d'un point de vue, de ce point de vue, l'intégration des presses universitaires dans l'écosystème du projet serait une étape supplémentaire pour rationaliser les coûts. Voilà pour moi. Je vous invite je vous enverrai le lien de la vidéo dans le chat qui vous fera une présentation un peu plus pédagogique par les coordinatrices de ce manuel.
Merci beaucoup Dorothée. Donc, comme je l'indiquais, on prendra les questions larges plutôt en fin de session. Toutefois, une petite question technique pour vous que vous pouvez peut-être envisager tout de suite. Pourquoi ne pas prévoir des versions EPUB des ouvrages ? On précise diffusion, téléchargement, fonctionnalité, fichiers recherchés par les lecteurs d'ouvrages numériques.
Alors, je sais plus pourquoi est-ce qu'on n'avait pas, on n'était pas parti là-dessus. Normalement, pareil, le site est responsive design, donc est parfaitement utilisable sur tablette et sur tablette et sur téléphone. Et derrière, on peut aussi se mettre en favori, créer ses propres fiches de lecture qu'on peut exporter et imprimer. Donc, effectivement, il n'y avait pas de version EPUB de prévu initialement.
Bien, merci beaucoup. On a la possibilité de vous contacter pour aussi avoir des échanges techniques plus larges. Et maintenant, on va passer en bilingue. And now we will shift to both French and English with Sophie Wenström. Donc, avec Sophie Wenström qui arrive de Stockholm, qui va nous parler des monographies libres et ouvertes à Libère. Merci beaucoup Dorothée. Sophie, je vais prendre du mieux que je pourrai une interprétation simultanée dans le chat. Sophie, I will try and do my best to translate directly in the chat and we will do the same for Q&A et on fera la même chose pour les questions-réponses.
I'll try Sophie. To speak slowly.
Over to you.
Yes, thank you so much. Je tiens à remercier les organisateurs de m'avoir invité à prendre la parole lors de cet événement. C'est un plaisir de vous rencontrer. Toutes mes excuses pour être passées à l'anglais pour mon discours. So, yes, I'm sorry for switching to English. But my French is not as good to work in an environment like this. I've been asked by Cécile to talk a little bit about what we have done within Libre. I am the chair of the Libre Open Access Working Group, and we have done some work regarding open access books. I just also want to congratulate the French colleagues. I love those examples of really good ebooks that are open for everybody to use. And they're great examples of what you can do if you put an effort into it. However, making these projects are not very easy. There's lots of challenges and opportunities. For example, Dorothée explained how they have financed that project. It didn't seem very easy. So I'll be talking a little bit about a couple of reports that's been done on analysis on what's been done on an overarching level in Europe, which is the scope of LIBER. So those of you who are not familiar with LIBER, it is an organization for research libraries, about 450 libraries. We have one mission: to deliver world-class research to the institutions we belong to. And for us, world-class research is collaborative, cross-disciplinary, increasingly data intensive. It's open and it's international. In our working group, we try to prepare things for our annual conference. And 2 years ago, we prepared a survey to libraries across Europe because we wanted to know what they were doing in terms of open access books. In order to change or encourage change, you need to know what is going on currently. The survey was presented at a conference workshop in Dublin, Ireland, in 2019. And the results of the survey showed that 83% of the libraries, we got about 68 responses, and 83% of those distribute open access books already via the repository in one way or the other. And 81% of those who distribute open e-books also include them in discovery services or catalogs to make them available to their users. About 40% of the respondents already publish open access books in some way, which is very interesting to me. I didn't know it was that much. This might have changed in the past 2 years. However, you can see also from the results that 29% manage funding for open access books, which is to enable others to publish. However, there is, of course, lots of challenges. From the survey that we conducted, one of the biggest challenges was funding. Not enough funding to produce books or to support production of books, and no staff to manage neither the funding nor the publishing operation. Also, for those who considered publishing books, they thought they lacked tools and skills to produce books. And also some respondents indicated that there were lack of strategies or policies on the top level. And there was no lack of will to produce or publish or distribute open access books, but it needs to be an approach for both the top and the bottom to make it happen. There were some good examples. Lots of libraries work with advocacy to showcase open access projects and to get support from researchers. Lots of university presses and libraries send and use metadata from services like DOAB or OAPEN. And lots of collaboration is going on, discussions is going on. But the wish list could be made long, of course. And one thing that's on the top of the wish list is some kind of coordination in terms of metadata, which libraries, digital libraries in these days are made of. And also to get some further buy-in from university management to get that top-down approach that we so much needed. However, this was 2 years ago. And while we might be frustrated from time to time that change is not too fast enough, there has been a new investigation done by OPERASP and Coping Projects, both projects supporting open access publishing in Europe. And they produced a joint report mapping the landscape. Cecile will be sending you links to these projects later on so you can read up on them. And they looked at business models for open access books in 14 countries. And they found that the landscape is diverse and few countries have policies or funding mechanisms already in place, which is sort of the same result that we saw in the survey from 2019. However, there seem to be lots of activities going on a local or regional level to support open access, and this is increasing. Also, I think the two examples we looked at before are evidence of that kind of activity. People are trying to innovate, trying to work where they're at and form new alliances or new products that can be made available for anyone to read open access. The study, the main takeaway from that study from OPRSP and COPEM is that we need more collaboration, that we need to form, for example, collaborative models for funding to make sure that projects are not relying from funding from just one source or one project. And we also need to make it sustainable so that products can stay up for a long time in being preserved in databases that doesn't disappear for a while after a while, and with permanent linking and so on. There are lots of tools available. We already mentioned DOAB and OAPEN already in the beginning, to really useful tools for discoverability. And I think more tests needs to be done in terms of figuring out how we can use those sources in our library catalogs and delivering information about books to users, and also, of course, teaching them how to find those books rather than browsing a shelf. You need to go into the database and search for what you want. A couple of new toolkits has been launched in the past year. One is called the OA Books Toolkit. It's a toolkit for authors wishing to publish open access. It includes information, and it's a knowledge base for finding out more about licensing, about formats, about recommendations on what to ask your publisher if you want to publish open access, recommendations on how to negotiate, making sure that the author's interest is being cared for in these projects. Another toolkit that I've been involved in developing myself is made for new university presses. It is made by the British organization DISC. So it has a slight British angle. However, I think it could be translated into many different discourses. It is a toolkit for how to start a press, or how to develop a press, or how to turn a press into an open access press. And last but not least, there is a voluntary network called Open Access Books Network. They have a platform on the Humanities Commons platform, and they provide a space where you could work together with others interested in this topic. And there's different ways of collaborating, sort of on formats, on policy forming, on funding available, and so on. So I think that that is a really useful source as well that I could recommend you to check out. It is free to register and start participating in the conversations. So conclusions from these two studies, which you're of course more than welcome to read more about. We will provide the links. Many stakeholders are interested in working with open access books. However, it is not always easy. Finding funding and sharing knowledge about best practices remain a challenge that we might need to want to talk about together. However, the opportunities to publish open access books are increasing. So there's more opportunities, and then maybe more incentives to actually figuring out how the funding works, or how we can learn more about what we need to know before we publish. Also, opportunities for new formats and funding models is on the rise, that we experiment a lot. I think these examples that we saw today are excellent examples on how you can enhance the print book while not abandoning the print format. But it seems like collaborative models is the future, because developing new books or new ways of reading things online is not cheap, and it shouldn't be done by just one player on the market. So I'm open for questions if you have any. I haven't seen the chat too much while I was talking, so please help me.
On comprend, Sophie, merci, que vous n'avez pas pu suivre le chat, qui était donc un joli moment pour, voilà, de traduction. Si vous avez des questions pour Sophie Wenström, vous pouvez les poser, bien sûr, dans le questions et réponses, pour qu'on puisse les prendre en compte tout de suite, ou lorsque nous aurons un échange un petit peu plus large. I have a question. Je vais vous poser une question à Sophie. It is not about the LIBER work. It's about the Humanities Commons. I'm not sure we do know much about it. Can you explain a bit. Je vais demander à Sophie de nous expliquer un petit peu ce que c'est que Humanities Commons, parce que je ne suis pas sûre qu'on soit tous très au courant. Ça va peut-être juste permettre d'ouvrir une petite fenêtre avant, avant les discussions générales.
I can show you, hang on, sorry. Maybe I should show you the site. Maybe that is easier.
Donc, le plus simple, c'est de vous montrer le site internet. Hein. Ce sera le, le plus simple pour vous y emmener.
Let's see. If I can figure it out. It looks like this.
Alors, voici ce à quoi ça ressemble.
So it looks like this. So it's just a, the Humanities Commons is a platform I think that anybody could use. So they have started a community on that platform.
And donc then la plateforme can, des humanités Commons, Humanities Commons est accessible à tout le monde. C'est une communauté qui a ouvert ce site et que l'on peut rejoindre pour y participer.
And if we want to find those collaborative models, I think this is a, an excellent way of staying in touch. You can subscribe to their updates, you can talk to people, you can ask experts so and see examples of what everybody else has done. So I would recommend looking into this and see if it's anything for you.
Donc c'est un exemple collaboratif qui couvre absolument tout le champ qu'on peut envisager. Ça semble à Sophie un excellent exemple de communauté voilà, participative. Vous pouvez faire appel à des experts, retrouver des ressources, participer aux travaux, vous abonner à des alertes et elle le recommande chaudement. Merci Sophie pour avoir mis le lien dans le chat. Thank you Sophie for putting the link in the chat. Peut-être qu'on peut, sur le quart d'heure qui nous reste, ouvrir les conversations. Je vais demander à Delphine Le Reculeur, Dorothée Pain, Céline Bartona, si vous le souhaitez, Marc Martinez, si vous êtes encore en ligne, nous rejoindre pour qu'on on puisse avoir des échanges croisés. Et c'est le moment où je vais ouvrir la boîte à questions. So everyone can come up to share views and exchange, discuss a bit. This is the moment where I open the question box. So first question and congratulations go to Sciences Po. La première question et les félicitations partent à Sciences Po. Je lis donc la question. Super initiative de Sciences Po, bravo. Et maintenant la question. Si j'ai bien suivi, la version papier est moins complète, entre guillemets, que la version numérique, qui est donc devenue la version de référence. Du coup, est-ce que la version papier continue de se vendre de façon satisfaisante? Cette question se double d'une seconde d'une autre personne, à peu près la même chose. Comment se passent les ventes du format papier? En êtes-vous satisfait? Avez-vous des ordres de grandeur à donner? Sciences Po, over to you.
Oui, donc concernant les versions papier et numérique sont les mêmes. On a les mêmes contenus, après présentés d'une façon différente, mais c'est aussi des versions homothétiques. Maintenant, quand on a fait le bilan avec les presses de Sciences Po concernant les ventes papier, je ne vous cache pas que pour les presses, ça n'a pas forcément été une expérience aussi positif que pour la version numérique, parce qu'ils ont vendu moins d'exemplaires papier que dans les précédentes éditions. Je crois qu'on est à plus de 2200 exemplaires vendus et il y a eu un retirage, me semble-t-il, aussi après, mais tous les exemplaires n'ont pas été vendus dans ce second tirage. Après, est-ce que c'est parce qu'il y a cette version numérique qu'il y a moins d'exemplaires papier vendus, le débat est ouvert. Je vous avoue qu'on n'est pas forcément tous d'accord là-dessus parce que je pense que l'utilisation du papier et du numérique est tout à fait différente. Enfin, voilà, l'Atlas en version numérique, on a son téléphone, on veut regarder, lire l'article, on le fait. Le papier, je pense qu'il est utilisé peut-être plus en classe par un enseignant qui veut faire travailler ses élèves où tout le monde n'a pas forcément un ordinateur sous la main. Donc, je pense que c'est juste qu'il y a peut-être moins de ventes papier parce que les pratiques évoluent et pas juste parce qu'il y a une version numérique. Mais bon, ça, c'est mon point de vue et je laisse le débat ouvert. Voilà.
Voilà, donc une invitation au débat. Je pense qu'on ne pouvait pas mieux faire de la part de Sciences Po. La question suivante va à Dorothée Pain pour l'Emmanuel. C'est une question un petit peu technique, mais peut-être que ça va nous amener à échanger. D'ailleurs, j'invite les panélistes à se renvoyer la balle éventuellement, parce qu'on a peut-être nous aussi des questions à se poser entre nous. Alors, pourriez-vous redonner, ça c'est factuel, le nom du diffuseur du projet ? Et là, ça devient plus costaud, nous réexpliquer ses actions en matière de diffusion de ce projet. Peut-être qu'on pourra demander des spécifications d'ailleurs sur cette question-là.
Alors, nous avons travaillé avec l'éditeur Nouveau Monde et le diffuseur, c'est Numérique Premium qui se charge de diffuser. Donc, il y a une très belle page Emmanuel sur leur quand vous tapez numériquepremium.com, vous avez dans les onglets en haut une page Emmanuel puisqu'ils espèrent en faire d'autres aussi fort de l'expérience. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'EPUB. Dans l'appel à projet, je viens de vérifier, il y a bien une version EPUB 3.2 qui est prévue. Donc effectivement, c'est pas la version qu'on utilise le plus, mais elle est prévue. Donc je reverrai avec le diffuseur, comment on peut accéder à cette version. Mais le manuel est totalement téléchargeable sur la page de Numérique Premium. Et ensuite, pour la diffusion, alors, le projet est tout nouveau, en fait. Donc, les versions papier sont sorties dernier trimestre 2020. Les comités éditoriaux et de pilotage viennent de s'achever là en début 2021. Donc, on va rentrer dans une deuxième phase qui est effectivement où on va s'attaquer à la problématique de la diffusion. Après, la pandémie n'aide pas parce que toutes les journées d'études qui étaient initialement prévues sont en visio ou reportées ou réduites. Donc, c'est vrai que là, pour l'instant, on a des soucis pour communiquer auprès des enseignants, mais ça va être prévu. Et avec Couperin, on se posait la question de créer un webinaire vraiment spécifique pour ce Emmanuel où il y aura les deux côtés, les deux faces de ce projet, à la fois la face projet que je vous ai présentée plus spécifiquement ici et la face pédagogique qui va plus toucher les enseignants-chercheurs des universités et notamment des universités partenaires qui ont participé au crowdfunding. Voilà, donc ça sera probablement fin mai, début juin.
Peut-être qu'on peut un petit peu élargir la question en disant qu'est-ce que vous retenez, vous qui êtes à la fois Couperin et en bibliothèque, qu'est-ce que vous retenez de cette expérience et quelle est vraiment la leçon à retenir, qu'elle soit positive ou plus en demi-teinte?
La leçon très positive que je retiens, c'est la collaboration avec tous ces partenaires de la chaîne des métiers du livre, vraiment. On a découvert les éditeurs d'une autre façon que celle qu'on a l'habitude de voir en bibliothèque. Ça nous a aussi donné de la visibilité auprès des enseignants. Alors, pour le coup, là, pour le coup, des enseignants de premier cycle, parce que les enseignants de premier cycle, finalement, ne sont pas forcément très acculturés à la documentation électronique de premier cycle parce qu'il n'y en a pas beaucoup et qu'ils ne sont pas prescripteurs. Et là, on a vraiment pu toucher ce public-là spécifiquement. Ça a été une belle aventure, une belle collaboration avec tous les acteurs et de se réunir tous dans un bureau, c'est déjà une grande victoire.
Merci beaucoup pour ces précisions. Je vois une question. I can see a question for Sophia Vanstrom. Well, actually, it's more a compliment. C'est plutôt un complément que nous avons récupéré. Merci, Emily, pour l'avoir envoyé. Je le mets dans la discussion. I put it in the discussion. It's about the new University Press Toolkit. Donc, voici le lien vers le toolkit de New University Press. Il a été mentionné par Sophie comme ayant une petite approche britannique. S'il a été repéré par des personnes qui sont aujourd'hui dans l'audience, peut-être que ça vaut le coup de revenir un petit peu sur ses intérêts de boîte à outils. Since this toolkit has been noticed by someone who's part of the audience today, maybe we can have a little more insight on this kind of toolkits and...
Yeah. Usually they have tried to do a collaborative effort for the toolkit as well to cover as much ground as possible. So even if it is kind of UK-centric at the moment, I think they're open to collaborations. I would say that maybe it's possible to translate at least part of it. It's licensed quite freely, and you can always contact the people at JISC asking for more information. But I think it seems like both from the survey that we did 2 years ago and from the current lay of the land, that there is a need for more knowledge about how to move forward. Let's say that you want to establish a publishing entity at your library or at your organization. How do you do it? How do you avoid the biggest pitfalls? How can you be strategic about it? And I think that is what the toolkit is about. Sort of think about this when you're starting a journal, think about this when you're initiating a program for open access books, think about this when talking to other libraries about distributing your book, that sort of thing. So I think it's very useful. And hopefully they're open to translating it to other languages as well so that we can share the knowledge in it. That is the beauty, I guess, of open access and internet, that it could be done so that we can continue sharing information.
Go.
I could also recommend to contact the Operas network, which I think you are familiar with in France quite a lot. Pierre Meunier has been a quite strong force in developing that collaborative effort. And they are usually involved in lots of these initiatives as well, so that we bring his favorite expression, bibliodiversity, into any initiative that is going on, to make sure that we include all languages, all disciplines, make it as diverse as possible, so that it's not too UK-centric or Swedish-centric, or that we look at commonalities rather than differences. So let's hope that we can continue that as well.
Thank you, Sophie. Oui, en effet, c'est intéressant d'avoir des communautés avec des points de contact qui partagent des expériences différentes. That's interesting to see how communities with contact points from disciplines can exchange their experience. Well, I have a question myself. J'ai une question moi-même à vous poser. And I think the three of you can answer this. Et je pense que chacune de vous trois peut avoir un point de vue à exprimer. Nous avons vu que sur l'exemple de Sciences Po, finalement, il y avait une sorte de petit questionnement sur la différence entre le papier et le web, comme s'il y avait une espèce d'écart trop important entre les deux. Alors que pour l'Emmanuel, Dorothée, vous avez bien indiqué qu'il y avait une volonté d'être homothétique, et j'imagine que ça a aussi fait face à un petit lot de critiques forcément constructives. Peut-être que ça vaut le coup de passer quelques minutes dessus en se demandant, mais finalement, ces différences de format, qu'est-ce qu'elles nous apportent, qu'est-ce qu'elles nous apprennent? Et est-ce qu'il y a une recette meilleure qu'une autre? We saw that Sciences Po, there was a big discrepancy between the paper and the web formats, and that led to some kind of criticism or questioning, and that was the other way around with the Emmanuel. So what are the lessons we can take from it, and is there one main format that we should follow or recommend?
Je peux répondre peut-être pour le Emmanuel. Je pense qu'il faut vraiment s'attacher à voir à qui on s'adresse en termes de public et quel type de publication on fait. Dans le cas du Emmanuel, on est clairement sur un objet transitionnel qui va servir de la fin du lycée à la dernière année de licence. Donc, c'est vraiment une période un peu charnière où on accompagne l'étudiant entre le papier et l'électronique. Ils ne sont pas complètement dans l'électronique, connaissent, ils savent pas forcément encore bien l'utiliser. Donc là, ça a vraiment été pensé pour ça. Après, les enseignants aussi, vous le verrez dans les vidéos, en parlent. C'est vrai que autant le papier va pouvoir servir de, je regarde à gauche parce que je l'ai à gauche, autant le papier va pouvoir servir pour les révisions, pour le confort de la lecture et pour le confort de révision, autant l'électronique va être plus un objet qui va servir de classe en classe pour mettre en place une nouvelle dynamique de cours. Donc les deux versions se complètent. Se complètent et ne s'utilisent pas dans le même cadre.
Un retour peut-être de Delphine ?
Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord avec Dorothée. C'est vraiment des usages très différents, donc ça va dépendre aussi à qui on s'adresse. Nous, dans le projet de l'Atlas, c'est vrai qu'on ne voulait pas faire un simple e-book. On ne voulait pas se dire, tiens, on reprend ce qu'on a fait en papier avant, on essaye d'en faire une version numérique et qui soit calquée, même si les contenus sont les mêmes entre les deux éditions. Donc, il a fallu, tout au long du projet, essayer de se détacher de l'objet livre et d'aller un petit peu plus loin et de penser avant tout à quel type de lecture on a quand on est en ligne. Parce qu'on ne lit pas du tout de la même façon, c'est-à-dire quand on est derrière son écran et quand on a du papier avec nous. Et ça, ça a vraiment animé toute notre réflexion, notamment dans le choix des polices, le choix de l'image, comme je vous ai montré, le choix qu'on ait vraiment une belle photo pour introduire les articles, enfin, qui est un vrai confort de lecture. Et donc ça, ça a vraiment été ce qui nous a, le fil rouge un peu de notre réflexion. Mais on n'était pas toujours d'accord en interne. Hein. Il y a eu beaucoup de débats, même cette question de savoir, est-ce qu'on affiche ou pas le nom d'un auteur, le nombre de références, le nombre de signes aussi. On est là sur des articles qui font 5000 signes, ce qui est très court. Donc c'était un exercice assez ardu pour les enseignants chercheurs qui ont rédigé les contenus. Qui d'ailleurs au début se sont dit « Ah, youpi, on n'a plus un éditeur classique, on va pouvoir faire un peu ce qu'on veut, c'est le numérique ». Bah, pas du tout, parce que écrire pour le web, c'est aussi beaucoup de contraintes. Si on veut garder notre public attentif sur ce qu'on lui propose. Donc voilà, c'est après, c'est des pratiques vraiment différentes. Et la version papier, je pense que, enfin moi la première, je suis une grosse consommatrice aussi de EPUB et de versions numériques. J'ai une tablette, enfin une liseuse, mais j'avoue que quand pour le confort de lecture sur le long terme, si je dois lire un livre en entier, je vais préférer quand même être sur du papier. Donc voilà, je pense que c'est des objets qui se complètent et qui ne s'opposent pas et que l'un, voilà, je pense que c'est bien de penser à la fois ces deux versions quand on propose ce type, enfin, qu'on travaille sur ce genre de projet. Et l'Atlas, en plus, c'est vraiment, enfin, pas un e-book. Moi, je le considère vraiment comme, tu en as parlé tout à l'heure, Cécile, mais c'est un webbook, c'est un espèce d'objet hybride, en fait. Donc, voilà.
So the dernière minute qui nous reste, so Sophia, there was a kind of a consensus to say that there is a complementary way to see e-books and printed books. Maybe you want to give us a word of wisdom about open access.
I could try. I think I agree totally that the versions or the formats complement each other. It's different ways of learning. If you want something that is linear or if you want something that is browsable and available more thematically, I think the ebook has an advantage. And also there's often a request for e-versions to be more versatile so that you can update them more efficiently and stuff like that. So I think, for me, working both at a university press and a library, I think the answer is metadata, proper tag products, make them findable, make them traceable in versioning. So if you create a new version, create a link to that, make sure that people who find the book in the library catalog can also see that there is a later version available. Maybe provide the books as print-on-demand products, meaning that you always print the latest version if you order it, for example, at the bookstore. And all that is driven by metadata and structure. So I think that is what we need to put some effort into, making sure that we can take advantage of all the different formats and that people can have the opportunity to learn in any format, because that is the ultimate goal, to make information available to as many people as possible.
Merci beaucoup, Sophia. Thanks a lot, Sophia. We will end here before we split apart and get back to business as usual. Avant qu'on se sépare et que chacun reprenne le cours de ses activités normales, je vais laisser Céline Bartona conclure ce webinaire. Merci encore de nous avoir invités à participer.
Merci beaucoup, Cécile. Merci infiniment à toutes les quatre pour cet excellent webinaire qui nous a permis de découvrir et de creuser plusieurs pistes en fait de collaboration donc à travers les projets que vous nous avez présentés et puis également les usages de lecture différents suivant le support. Donc ce sont des pistes que nous souhaitons poursuivre en fait, explorer dans le cadre du réseau Medici. Donc je pense qu'il y aura des échanges fructueux avec vous dans les prochains mois. Donc vraiment un énorme merci à toutes les quatre de vous être rendues disponibles pour ce webinaire. Et je voulais juste préciser aux collègues qui nous suivent, si les collègues sont toujours en ligne, qu'il y a un petit questionnaire pour nous faire remonter voilà, leur satisfaction ou leur demande de précision sur ce webinaire précisément, et vous inviter à nous retrouver cette fois-ci, donc ça sera le 20 avril, ça sera un mardi, pour le prochain webinaire, créer une collection Halles de revues, un retour d'expérience sur la revue Gallia, une revue d'archéologie, par Nicolas Coquet, qui est chargé de ressources documentaires au CNRS, à la MSH Monde, à Nanterre. Donc, ça sera le mardi 20 avril à 14h. Merci encore à toutes pour ce formidable webinaire qui était vraiment passionnant. Et très bonne journée à toutes et à tous.
Merci.
Merci,
à bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Bye, Stockholm.